l'établissement d'Est France. Donc ce soir, j'ai le plaisir de vous accueillir pour une rencontre de l'espace des métiers sur les métiers de l'informatique. Donc pour information, nous avons à Est France un espace des métiers qui existe depuis l'an 2000, où on peut trouver de l'information sur les métiers plutôt à vocation scientifique ou sur les métiers liés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est ouvert tous les jours et puis il y a donc un point de documentation avec des livres à consulter sur place. Il y a également une animatrice qui est présente pour vous aider dans vos recherches. Voilà, et puis pour accompagner ce centre de documentation, nous organisons donc régulièrement, comme ce soir, des rencontres avec des professionnels qui acceptent de nous venir témoigner de leur parcours, de leur quotidien, de ce qu'ils font concrètement dans leur métier. Donc ce soir, j'ai la chance d'avoir 4 personnes à la tribune. Donc il y a M. Patrick Girard, qui est professeur à l'Université de Poitiers et qui donc va introduire cette table ronde en présentant plutôt l'aspect formation, mais également le secteur des métiers de l'informatique. Voilà, donc après sa présentation, il y a différents professionnels qui interviendront. Donc dans l'ordre, il y a Julien Dombre, qui est donc ingénieur à l'Université de Poitiers. Ensuite, Justine Chosler, qui est ingénieure également technico-commerciale donc dans l'entreprise CleanSight. Et ensuite, Cyrielle donc Charlot, qui travaille donc au CRDP Poitou-Charentes comme technicienne de maintenance. Voilà. Donc on a essayé de faire la parité. Il y a 2 femmes à la tribune, ce qui est assez rare dans les métiers de l'informatique. Quand je regarde la salle, c'est assez rare également. Donc c'est une profession plutôt masculine, on dira. Mais bon, on va en parler de tout ça. Donc après leur présentation, n'hésitez pas à intervenir. L'objectif de ces soirées, c'est que vous repartiez, qu'on ait répondu à toutes vos questions, aussi bien sur les formations, les métiers. Et puis on va voir en fonction de vos centres d'intérêt. Donc je laisse la parole à Patrick Girard, qui va nous faire la présentation. Merci encore.
Bonjour. Donc je suis Patrick Girard, professeur d'informatique à l'Université de Poitiers. Je vais faire une petite introduction très rapide parce que je voulais juste situer les métiers de l'informatique et puis peut-être changer quelques idées reçues qui traînent beaucoup dans les mentalités aujourd'hui. Avant de laisser la parole à mes voisins qui vont vous parler de façon très concrète de leur métier. Les métiers de l'informatique, ce sont des métiers extrêmement divers dont on connaît un certain nombre de caractéristiques. Donc il y a des métiers qui sont extrêmement techniques, qui sont au niveau de l'administration des systèmes, de la maintenance, l'administration des bases de données. Des métiers du développement, analyste programmeur, c'est quelque chose qui est relativement connu, au moins en tant que mot. Et puis on a un certain nombre d'experts, donc je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup, experts sécurité par exemple, experts réseau, etc. Mais en fait, les métiers de l'informatique, c'est beaucoup plus que cela. On a des métiers plus spécialisés, je cite par exemple architecte d'application, et des métiers qui sont très en relation avec les utilisateurs, spécialistes en IHM par exemple, et puis des métiers qui tendent vers d'autres domaines, tels que des domaines commerciaux, des domaines tels que la formation, le consultant avant-vente qui permet d'apporter des aspects techniques aux futurs clients. Bioinformaticien, qui est un exemple dont on parle beaucoup, même s'il est peut-être un peu surfait. Donc tout ça, ce sont des métiers qui, en fait, sont beaucoup moins techniques au niveau informatique et qui s'ouvrent sur beaucoup d'autres disciplines. Ce qui fait que le nombre d'informaticiens augmente en fait énormément et surtout donc à la périphérie de la discipline. Quels sont les acteurs qui embauchent ces informaticiens? Alors évidemment, on pense tout de suite aux éditeurs de logiciels, aux constructeurs de matériel qui incorporent de plus en plus d'informatique à l'intérieur de leurs outils. Mais c'est loin d'être la majorité des postes dans ce secteur. Il y a bien sûr les distributeurs, les gens qui distribuent ces logiciels, distribuent ces matériels. Et puis il y a, je ne parle pas du grand public, je parle surtout au niveau des entreprises, il y a les entreprises utilisatrices. Il y a évidemment à côté de ça le grand public. Mais le grand public, évidemment, n'est pas, c'est pas au niveau professionnel, hein, puisque là, on parle des métiers. Donc, on va trouver des informaticiens aussi dans les entreprises, mais ce n'est pas forcément là qu'on en trouvera le plus, car l'informatique, aujourd'hui, la grande tendance, c'est d'externaliser ces métiers vers des intermédiaires, des gens qui vont être les intégrateurs, les SS2I, les sociétés de services en ingénierie informatique, qui représentent aujourd'hui la majorité des emplois dans le secteur, en tout cas des emplois des jeunes diplômés. Alors, quelles sont les formations pour travailler en informatique? Ben, comme tous les métiers, en particulier du supérieur, parce que les métiers se situent essentiellement à partir de Bac plus 2, il y a un certain nombre de BTS, de brevets de technicien supérieur, et de DUT, de diplômes universitaires de technologie, qui sont spécialisés dans les différentes parties de l'informatique, au niveau système réseau, au niveau développement, au niveau gestion, informatique de gestion. Il y a depuis peu les licences professionnelles qui permettent de se spécialiser dans un domaine en général assez pointu, assez étroit. Il s'en crée de plus en plus et dans l'informatique, il s'en crée un peu comme partout. Et puis ensuite, vous avez les niveaux ingénieurs avec les écoles d'ingénieurs, les masters et éventuellement le doctorat pour un certain nombre. Les écoles d'ingénieurs en informatique sont assez peu nombreuses. C'est un domaine, contrairement à beaucoup d'autres domaines de l'industrie, où les écoles n'ont pas beaucoup proliféré. Donc, ce qui fait qu'une bonne partie des informaticiens aujourd'hui sont plutôt formés dans les masters, master professionnel, master recherche, dans le domaine informatique. Pour information, donc à Poitiers, vous avez un certain nombre de filières, dont une filière master informatique pure, fondement de l'informatique et des réseaux, je crois que ça s'appelle, F3I, et l'image, pardon, informatique et de l'image. Une licence professionnelle qui va ouvrir à partir de l'année prochaine, spécialisée dans les technologies web et de terminaux mobiles. Et puis, vous avez un certain nombre de BTS, DUT qui existent dans l'académie. Alors, on peut se dire, une idée reçue, enfin une idée courante aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a trop d'informaticiens, il n'y a pas de boulot au niveau informatique. Alors, j'ai pris des chiffres qui proviennent du Syntec, le syndicat de l'informatique, l'ensemble du milieu professionnel informatique, qui aujourd'hui, au niveau Bac plus 5, donne des chiffres qui sont très parlants. Hein. C'est 90% d'embauche dans les 3 mois qui suivent le diplôme. C'est les 3/4, voire plus, d'embauche en CDI, très très peu de CDD. Alors ça, ce sont des chiffres hein, au niveau Bac plus 5, c'est pas tout à fait vrai au niveau des Bac plus 2. C'est vrai qu'aujourd'hui, on manque cruellement d'ingénieurs informatiques, on manque cruellement de cadres, et c'est quelque chose qui est mondial, c'est pas uniquement au niveau français, c'est absolument mondial, on en manque partout. Donc je suis allé très très vite, hein, c'était juste pour planter un petit peu le décor. Je vais juste terminer par une petite conclusion en forme simplement d'espoir, on va dire, pour les gens qui veulent s'engager dans cette filière. Les perspectives aujourd'hui sont énormes. On a connu dans les années 2000 un boom sur les métiers de l'informatique. Il y a eu une baisse importante dans les années 2002-2003. Et là, on est reparti bien plus fort. Bon, c'est toujours cyclique, hein, ce genre de choses, mais aujourd'hui, la pénurie est vraiment extrêmement, extrêmement importante. Donc voilà, je voulais juste poser le décor comme ça et puis passer la parole. Qu'est-ce qui commence ? Alterner.
Donc, bonsoir à tous. Je m'appelle Justine Chausselaer et donc je travaille en tant qu'ingénieure technico-commerciale dans une société qui s'appelle CleanSight, qui est située au Biopôle sur Poitiers, et on a également la maison mère à Bordeaux. Donc je vais vous présenter rapidement les activités que j'exerce au quotidien. Je vous parlerai d'abord, malgré tout, dans un premier temps, de ma société et je terminerai sur la formation qui m'a permis d'occuper un tel métier. Donc, ma société, donc la société CleanSight est une société éditrice de logiciels pour les essais cliniques. Donc, les essais cliniques, en fait, avant, je vais vous présenter rapidement en quoi ça consiste. Donc, avant qu'un médicament soit mis sur le marché, il y a toute une phase de test qui est fait d'abord sur les animaux, puis sur l'humain, afin de vérifier l'efficacité du médicament, éventuellement les effets indésirables que ce médicament engendrerait. Donc, c'est des tests de sécurité qui sont faits. Donc, nous développons en fait un logiciel qui permet de gérer toutes les données qui sont émises au cours des différents tests qui sont faits sur l'homme. Donc, ça, c'est pour ce qui est du domaine d'activité. Donc, mes activités au quotidien, donc c'est tout ce qui est évidemment recherche de clientèle, parce que c'est ce qui fait vivre la société. Donc, je fais beaucoup de prospection téléphonique et j'ai aussi beaucoup d'appels d'offres, des appels d'offres publics auxquels je dois répondre. Donc, en fait, il s'agit de cahiers des charges émis par le client auxquels on apporte une réponse par rapport à ce que peut faire notre logiciel et ce qu'il ne sait pas faire. Donc, ça consiste ainsi au maintien en fait des clients actuels. Donc, nos clients actuels qui sont des laboratoires pharmaceutiques, ce sont aussi ce qu'on appelle nous des CRO, ce sont les sous-traitants de l'industrie pharmaceutique en fait. On a également en client des associations de recherche, des centres de lutte contre le cancer, des hôpitaux. Donc, on a une clientèle assez variée. Donc, ces clients ont des besoins permanents en termes de formation, en termes de licences supplémentaires par rapport au logiciel. Donc, j'ai toute cette gestion de devis et de papier, en fait. Et aussi, au niveau de mes activités, il y a tout ce qui est, évidemment, promotion de l'entreprise, avec la participation à des salons sur les essais cliniques, avec tout ce qui est promotion de l'entreprise à travers le site web que je dois maintenir, mettre à jour, etc. Donc, de par la taille de l'entreprise, en fait, nous sommes actuellement seulement 14 personnes. J'ai une double casquette. En plus de ce côté commercial, je gère la formation pure et dure au logiciel. Donc, c'est-à-dire que je vais aller chez le client dans un laboratoire pharmaceutique qui a acheté notre produit et je vais l'y former. Donc là, à ce niveau-là, pour être plus concret, les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est l'hétérogénéité des personnes, le fait de former des personnes qui sont souvent beaucoup plus âgées que soi-même. Donc ça demande une certaine aisance, on va dire, et un certain dynamisme pour intéresser les gens. Voilà. Donc par rapport maintenant à la formation qui m'a permis d'arriver à ce métier, donc j'ai fait la formation qui s'appelait à l'époque, puisqu'il y a des évolutions au niveau des dénominations, donc j'ai fait un DESS, donc c'est un bac plus 5, génie physiologique et informatique. Donc j'ai une formation double de compétences, à la fois en informatique et à la fois en biologie. Donc maintenant, pourquoi est-ce que j'ai voulu exercer ce métier ? Parce que je voulais avant tout un métier relationnel, avec des contacts directs avec des personnes. Donc c'est quelque chose que je retrouve au quotidien dans mon travail. Je ne voulais pas pour autant perdre le côté informatique et en même temps le côté biologique que je retrouve à travers les essais cliniques, en fait. Voilà, si vous avez des questions.
Donc, est-ce que vous voulez réagir déjà, avoir des compléments sur le métier de Justine Josselaire ? Quelque chose que vous découvrez, vous voyez, après. Donc, ce qu'on a voulu montrer à travers donc, cette intervention, c'est associer donc, l'informatique et les doubles compétences, et notamment cet aspect, l'informaticien n'est pas tout seul devant son écran, il peut, comme dans le cas de Justine, rencontrer des gens, et l'aspect commercial qu'on peut associer donc, à cette profession. Voilà. Donc, de toute façon, les questions viendront peut-être ensuite. Hein. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'on continue comme vous souhaitez ? En fait, on n'a pas déterminé un ordre précis. Hein. Donc, on va passer, on va passer la parole donc, à Cyrielle Charlot pour nous parler de son expérience. Voilà.
Donc, bonsoir. Donc, je suis Cyrielle Charlot, j'ai 23 ans. Donc moi, je vais vous présenter d'abord mon parcours scolaire et ensuite mon parcours professionnel. Donc j'ai commencé par un bac STI, génie électronique, au lycée Pilote Innovant. Et ensuite, en études supérieures, j'ai fait un BTS informatique de gestion à l'INOR d'Aquitaine. La première année, donc, j'ai commencé par des études, comme tout le monde, d'administration réseau et de développement. Donc on a une formation sur les deux tableaux. Et en fin d'année, donc, on a un stage obligatoire que j'ai effectué à la mairie de Poitiers. La seconde année de BTS, on demande une spécialisation, donc soit développement, soit réseau. Donc pour ma part, j'avais choisi donc le réseau. Et en fin d'année, donc j'ai effectué un stage à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt. J'ai eu mon BTS donc en 2005 et donc j'ai commencé à me lancer dans les recherches d'emploi. Et j'ai eu de la chance parce que la mairie m'a rappelé pour me proposer donc de travailler pour eux. Donc de 2005 à 2007, j'ai travaillé au service informatique. Pendant un an, j'ai travaillé à la cellule maintenance, où donc j'étais embauchée pour faire la migration du parc informatique en XP, et également donc des dépannages à distance et sur site, aussi bien logiciel que matériel. L'année d'après, donc ensuite, j'ai changé de cellule pour passer à la cellule exploitation. Et là, donc, je me suis davantage occupée des sauvegardes sur les serveurs et surtout un gros projet qui est venu à la fin de l'année suivante, le projet Intranet, donc, qui était un projet assez important pour la mairie à l'époque. Donc moi, pour le projet Intranet, je m'occupais surtout de l'assistance aux utilisateurs et je faisais une petite partie de formation, mais l'espace Mendès France a assuré la plus grosse partie. Donc ensuite, pour l'année suivante et donc jusqu'à aujourd'hui, donc je travaille au CRDP de Poitiers, au service documentation pédagogique. Et donc le CRDP de Poitiers est éditeur de logiciels. Donc je pense que ceux qui sont encore étudiants doivent connaître le logiciel BCDI, donc qui sert à la base pour les documentalistes pour gérer leurs fonds documentaires et également pour les élèves pour faire des recherches sur le fonds du CDI. Donc le CRDP, ce n'est pas qu'un éditeur de logiciels. On propose également des services documentaires et qui sont relativement nombreux, donc qui permettent en fait de simplifier le quotidien des documentalistes. Donc mon travail, moi, très concrètement, au sein du CRDP, j'assure la maintenance logicielle du logiciel BCDI et de ses services. Donc nous sommes 3 personnes pour la maintenance Windows et une personne donc pour la maintenance Linux et plus précisément pour la maintenance d'une distribution spécifique à l'Académie de Lille. Donc en fait, moi, je m'occupe vraiment très spécifiquement de l'Académie de Lille, étant donné que c'est une distribution qui a été réalisée par une société privée, et je travaille en lien avec un développeur donc de cette société pour réaliser les nouveaux paquets de mise à jour et tous les paquets qu'il y a à faire au niveau des nouvelles versions de BCDI qui peuvent sortir. Et donc mon travail va un petit peu s'ouvrir, va un petit peu s'agrandir, dans le sens où j'ai demandé donc à faire des formations du logiciel dans les établissements scolaires en France et surtout à l'étranger. Donc je vais devoir, moi, me former maintenant au métier de documentaliste. J'ai déjà le côté technique et il va me falloir une formation de documentaliste. Voilà pour ma partie.
Merci. Est-ce que vous voulez des compléments d'information sur ce qui vient d'être dit? Je ne sais pas. Vous êtes tous informaticiens dans la salle. Ça vous parle, tout ce qui a été dit, c'est pas de besoin de compléter. Ah, une question. Je vais venir avec vous avec le micro parce qu'on enregistre.
Juste un commentaire. Non, c'est juste j'ai vu pour la première personne qui s'est présentée l'aspect quand même très commercial des choses. Donc ça, par rapport à l'informatique, ça me... Enfin, moi, justement pour sortir de cet aspect commercial que je cherche à faire de l'informatique. Et puis pour la deuxième personne, cet aspect formation qui m'intéressait beaucoup parce que je trouve que l'informatique, enfin moi, c'est ce qui m'intéressait, c'était être formé pour pouvoir reformer d'autres personnes et puis former sur des logiciels Et donc voilà, j'ai trouvé, c'était juste une réflexion et pas de question, que les deux aspects étaient quand même radicalement différents, parce que l'aspect commercial sur le premier exemple me parle moins, même si à la base je suis commerçant. il y a le côté vente de produits, il y a le côté des... je ne sais pas, ça m'en va en parler.
Malgré tout, en fait, je suis amenée très fréquemment à faire de la formation, mais là, c'est vraiment dû à la taille de la société et au fait que quand on travaille dans une toute petite société, il faut être absolument polyvalent. Donc ça, c'est vraiment très, très enrichissant de pouvoir, au moins au départ, dans un premier poste, intégrer une petite société. Bon, il y a des aspects positifs, il y a des aspects négatifs aussi,
Mais la
évidemment.
Question, en fait, entre les deux, parce que du coup... découle une question, mais c'est que je trouve que pour la deuxième personne, j'ai pas retenu vos prénoms, vous m'excuserez, mais il y a un développement sur des nouveaux logiciels, des nouvelles sources de formation, et je trouve à contrario que pour vous c'est plus de la maintenance, de l'accompagnement, et il y a moins de renouvellement du métier, en fait. Enfin, je sais pas, c'est comme ça que
par rapport à au côté formation,
bah, je trouve que vous êtes moins amené à développer des nouvelles choses, enfin cet aspect créatif.
Alors là, en fait, alors faut savoir que nous, notre logiciel évolue en permanence et qu'on sort des packs, des nouvelles versions du logiciel en permanence. D'accord. Donc en fait, moi, à travers la formation, je suis au contact direct de l'utilisateur final. Donc j'ai tout un retour direct. Alors en fait, je représente vraiment une interface entre l'utilisateur final et les développeurs que je fréquente au quotidien, en fait. Donc à l'issue de toutes les formations, j'émets un compte-rendu qui fait part éventuellement des remarques qui ont été faites par rapport au logiciel. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas ? Mais il faut savoir que le logiciel, tout ce qui est géré des données cliniques, c'est quelque chose d'énorme, en fait. Après, il faut connaître.
Vous êtes amené à reprendre des cours, à reprendre des formations également. Enfin, votre travail se renouvelle.
Mon travail se renouvelle puisque le logiciel évolue en permanence. Donc moi, il faut aussi que j'adapte les formations que je fais aux clients aux nouvelles fonctionnalités. Donc encore depuis hier, je forme actuellement des personnes depuis hier jusqu'à vendredi. J'en ai encore la semaine prochaine. Tout ça s'ajoute au côté commercial. Okay. Donc c'est une charge de travail, j'avoue, assez conséquente. Mais c'est un logiciel vivant, c'est-à-dire que c'est pas comme Word où on achète Word, on utilise Word et on sait... Et c'est tout. Là, ça évolue en permanence.
C'est ce que je trouvais justement passionnant. C'est que dans le métier, moi, ce qui m'intéressait, c'est que ça puisse se renouveler. Donc, c'est pour ça que je vous interpellais sur, entre l'aspect commercial et l'aspect reformation sur des nouvelles choses et tout ça. C'est tout.
D'accord.
Maintenant, j'ai compris.
D'autres noms, interventions, questions. Je ne sais pas, Cyrielle, tu voulais compléter ou alors on va passer la parole à Julien après.
Par rapport à l'aspect commercial et par rapport à l'aspect formation, on a quand même, déjà moi dans le secteur dans lequel je travaille, je suis pour le moment la seule technicienne de maintenance à demander à faire des formations. La plupart des gens qui font des formations chez nous sont des commerciaux ou pas des personnes qui font du technique, du tout. Et donc c'est... Je pense que c'est pas forcément une vraie idée de se dire qu'à EMIT, c'est dans la continuité des choses. On est technicien et on fait derrière des formations. C'est vrai que ça va ensemble, mais par exemple, dans le cas de mon logiciel, je n'ai aucune formation de documentaliste. Donc moi, je vais devoir me former à côté. Donc Justine, je ne sais pas exactement toi au niveau de ce que tu dois compléter à côté, mais... pour faire tes formations, justement.
Après, il faut avoir, toute la culture médicale, en fait. Toute la culture, tout ce qui est... toute la culture médicale, quand on parle d'un CRF, il faut savoir ce que c'est. C'est un cahier d'observation dans lequel on saisit toutes les données, tous les paramètres qui sont mesurés chez l'homme. Un poids, une température, etc. Donc, il y a tout un côté technique pointu, tout un vocabulaire à acquérir. Que là, j'avais déjà une bonne connaissance du milieu avec ma formation de bioinformatique, avec tout ce qui est data management, donc c'est la gestion des données. Donc nous, c'est la gestion des données médicales. Après, le fait de former des gens, ça me permet aussi d'acquérir, j'apprends indirectement leur métier. Puisque je suis au contact de médecins, je suis au contact de data managers qui font ce métier au quotidien. Donc, en les y formant, moi aussi, je prends en retour des connaissances métiers. C'est comme ça que ça se passe pour mon côté, en tous les cas.
Donc je vais pas vraiment vous présenter, quoi. Si, je vais peut-être vous retracer un peu mon parcours. Mais contrairement à mes deux voisines, au départ, j'ai pas du tout une formation en informatique. Et pourtant, je travaille depuis, on va dire, quasiment 8 ans dans l'informatique. Je suis venu à l'informatique par passion. Aujourd'hui, je travaille à l'Université de Poitiers en tant qu'ingénieur, on va dire ingénieur à tout faire, on va dire, parce que j'ai pas vraiment de mission vraiment... Je fais pas que du développement, ou je fais pas que du système, ou je fais pas que du réseau. Je fais de l'ensemble de tout ça. Mais au départ, je suis pas du tout informaticien. Ma formation initiale, c'est une formation de physicien, qui m'a amené déjà par ma passion et à l'utilisation des outils et de par l'ensemble de mes études, à être obligé d'utiliser cet outil-là, à être obligé de m'auto-former à cet outil-là. Parce que la formation que j'ai faite au départ, qui était une formation d'ingénieur en physique, on faisait un tout petit peu d'informatique, mais c'était, j'ai dû faire, dans mon souvenir, 12 heures de formation à la programmation. 12 heures de formation à la programmation, je ne sais pas, voilà, ça ne suffit pas du tout. La formation qu'il y a derrière, et c'est encore le cas même aujourd'hui, c'est quasiment que de l'auto-formation. Que ce soit sur la programmation, que ce soit sur les systèmes, que ce soit sur... Et cette auto-formation, elle se fait tout au long de la vie, elle se fait par passion. Je pense qu'il faut. C'est assez difficile de venir à l'informatique sans réellement être. Avoir un minimum de passion par rapport à ça. Donc, ayant fait mon école d'ingénieur en physique, j'ai enchaîné par une thèse en traitement d'image. Donc là, j'étais amené pendant 3 ans à passer mes journées devant un écran. Là, on peut vraiment parler de travail de développement, parce que j'ai passé 3 ans à développer. Il y avait toute une partie recherche qui est à côté, mais le gros de mon temps était sur mettre en application les différentes idées qu'il pouvait y avoir. Ça m'a amené au bout des 3 ans à candidater sur un poste d'ingénieur qui est dans le laboratoire dans lequel j'ai fait ma thèse, qui m'a amené à faire ce qu'a fait Cyriel à la mairie, c'est-à-dire de la maintenance. À cette époque-là, mon travail, c'était d'arriver à faire en sorte que les gens puissent travailler. Et c'était que ça, c'était que un travail de service. Faire en sorte que les gens puissent travailler. Faire en sorte que les gens ne perdent pas 2 jours parce que leur PC ne fonctionnait pas. Faire en sorte de donner les outils aux utilisateurs pour qu'ils puissent travailler plus vite, mieux. Une fois passé ça, je pense quoi. Moi, personnellement, je m'en suis lassé assez vite. Donc ça m'a amené aussi à faire d'autres choses pour le laboratoire, à monter des applications de gestion pour le laboratoire, à mettre en place des outils qui permettaient d'améliorer le travail de chacun. Que ce soit le secrétariat, que ce soit même les chercheurs, leur donner des outils pour être un peu plus performants dans ce qu'ils faisaient. Donc ça m'a amené après à passer sur du développement, on va dire, plus pour plus vraiment rester au niveau du laboratoire, mais rester au niveau de la faculté des sciences. Donc en particulier, il y a un certain nombre d'applications, donc j'ai repris en particulier des applications qui avaient été développées par des étudiants de génie physiologie pour la scolarité. On a remonté entièrement toute une plateforme de présentation de l'offre de formation de la faculté des sciences. Il y a eu plusieurs versions de ce logiciel-là. Et depuis 4 mois, j'ai encore évolué. En fait, j'ai l'impression que je me lasse assez vite de ce que je fais. Et donc, je suis passé aux services centraux, aux services communs informatiques de l'université, sur la gestion de tous les applicatifs, l'exploitation, on va dire, de tous les applicatifs de gestion. Donc, que ça soit Donc, qu'est-ce qu'on entend par applicatif de gestion? Tout ce qui est gestion comptable de l'université, gestion des étudiants à l'université. Donc, c'est des applications c'est des produits d'entreprise. C'est des. Je ne sais pas, quand on peut. Le budget de l'université sur une année, je ne sais pas combien c'est, mais c'est. On doit gérer, au final, l'ensemble des. de l'avis de l'université sur l'ensemble de ces applications-là. En plus de l'exploitation de ces applications, donc on n'a pas à développer ces applications, c'est des applications qui sont fournies par l'AMU, c'est l'agence de mutualisation des universités et des établissements. Donc nous, on ne fait que l'exploitation, donc l'installation, la configuration pour l'établissement, on fait les évolutions, les mises à jour de ce qui est fourni par l'AMU. Autour de ça, forcément, ce qui est fourni par, on va dire, au niveau central, n'est pas complètement adapté aux besoins de l'université. Donc on est obligé, nous, à côté, de développer un certain nombre de briques adaptées pour les besoins propres de l'université. Donc on va forcément rajouter des petites applications qui gravitent autour de ces gros logiciels pour les besoins de l'université. Et associé à l'exploitation de ces applications, on a tout ce qui est lié autour. Pour faire tourner l'application, il faut un serveur. Et donc il faut faire la maintenance système sur ce serveur. Il faut interconnecter ces serveurs. Donc il y a toute la partie réseau qui va avec. Et donc, à l'heure actuelle, on va dire que je touche quasiment à l'ensemble à énormément de domaines au niveau informatique. Sachant que je ne suis pas tout seul pour faire ça. On est une équipe de 5 personnes. Et donc il y a aussi faire en sorte que tous ces gens travaillent ensemble et qu'on avance pour fournir le meilleur service aux utilisateurs. Pour conclure, moi, donc, l'informatique, c'est ma passion, mais une des choses qui m'a amené et qui m'a poussé vraiment dans l'informatique, c'est le fait qu'on ne peut pas, en informatique, faire de grosses choses seul. On est obligé de... C'est vraiment, la plupart du temps, pour des grosses applications ou pour mettre en place des choses de taille importante, c'est jamais un travail isolé devant son PC. On ne reste jamais devant son PC tout seul. On est toujours obligé d'aller... c'est quasiment au jour le jour un travail d'équipe. Toujours. Voilà. Donc il ne faut pas penser vraiment le stéréotype de l'informaticien devant son PC en train de boire des cafés et de temps en temps il va aux toilettes. C'est avec sa pizza et compagnie. C'est vraiment pas ça. Voilà. Est-ce que vous avez... Oui, c'est aussi une formation continue. Est-ce que vous avez des questions ?
Merci. Donc, je vous invite effectivement à poser des questions, vu la richesse de nos intervenants.
Une remarque et puis une question un peu générale. Une remarque concernant le spectre des niveaux de formation. Il ne faudrait peut-être pas oublier non plus les bacs pro réseau, maintenance réseau, qui, avant le niveau bac, au niveau bac, participe à des tâches de... Ça commence par le câblage du réseau, l'installation d'un réseau, et puis la validation de ces solutions, d'une part. D'autre part, dans le spectre, justement, de ces niveaux de formation, comment peut-on calquer celui du cycle de vie d'un produit informatique, c'est-à-dire de la prospection du client, en passant par l'étude, puis la réalisation, qui elle-même se décompose en plusieurs étapes, mais passons vite, les tests, la commercialisation, la formation, la maintenance. Comment ce spectre de ce cycle de vie se calque sur les niveaux de formation? Est-ce que l'ingénieur est plutôt dans tel domaine, dans telle partie du cycle de vie? Est-ce que le technicien est plutôt sur d'autres domaines? Quels sont les niveaux de recouvrement? Et quel est le facteur lié à l'expérience acquise au fil des années, quel que soit le niveau de formation?
Je vais peut-être donner des éléments de réponse, puis on essaiera de compléter. Je dirais que déjà, il y a deux grands aspects dans l'informatique. On a entendu là, dans les expériences, il y a une partie d'exploitation et puis il y a une partie développement projet. Donc, sur la partie exploitation, ce sont des métiers assez spécialisés, certainement pas mal, beaucoup techniques, sur lesquels il y a beaucoup de personnes au niveau technique, donc Bac Pro, Bac plus 2, techniciens qui opèrent sur la maintenance. Dans le secteur développement, il y a beaucoup moins de gens, de personnes de ce niveau-là qui sont concernées. Le niveau analyste programmeur, ceux qui codent, à la limite qui codent beaucoup, il y a des techniciens, des techniciens supérieurs, des BTS, des IUT développement, et puis ce sont des licences maîtrise. Et au niveau de... Enfin, ancienne formule. Dans la partie plus analyse, donc tout ce que vous avez décrit effectivement sur le cycle de vie logicielle, d'un logiciel, d'un projet logiciel, toute cette partie d'analyse, c'est plutôt fait par des ingénieurs, des niveaux Bac plus 5, de même que la partie qui concerne la validation. Plus on va vers l'utilisateur final et plus on se trouve au niveau de poste de niveau ingénieur. Donc on peut donner cette grande distinction, si on veut, entre les postes. Ce qui n'empêche pas, malgré tout, quand on est ingénieur, de développer certaines parties. Enfin, bon, Julien a bien expliqué que ça faisait partie de son travail aussi de faire du développement, de faire un peu de tout. Mais c'est ce qui caractérise quand même beaucoup la plupart des métiers de l'informatique, c'est cette polyvalence, c'est le fait d'avoir des tâches variées. Si on veut avoir des tâches variées, on peut en avoir. Bon, on peut aussi se cantonner à des choses, mais c'est quand même pas trop l'esprit. L'informatique bouge beaucoup, il faut toujours se former, il faut toujours explorer les nouvelles voies. Et donc, c'est un métier qui bouge.
Moi, je suis peut-être dans un cas particulier, mais je peux parler concrètement des collègues avec qui je travaille, en fait, puisque il y a le commercial, mais il y a en effet le développement du logiciel. Donc nous, concrètement, au niveau de la société, il y a pratiquement que des niveaux Bac plus 5 au niveau du développement. Et on commence à avoir des Bac plus 2. Pour tout ce qui est support technique et également non pas la rédaction des jeux de test de validation mais l'exécution des jeux de test. Donc là c'est plus une histoire de ça prend du temps, il faut du monde et du coup après je pense que c'est aussi dépendant des politiques, enfin de la politique de la société. Donc dans le privé il y a des gens qui sont à cheval sur le niveau de l'étude, le diplôme en fait tout simplement, qui se dit, moi, je ne veux recruter que des gens qui ont tel diplôme. Et il y en a d'autres qui vont être plus ouverts et qui vont plus regarder les compétences des personnes et les expériences également. Donc, moi, dans mon cas précis, il y a pratiquement que des ingénieurs, mais je pense que ça vient, c'est une volonté de la direction, en fait.
Éventuellement, si je peux rajouter une petite chose, j'ai eu beaucoup de chance, moi, de trouver du travail avec un Bac plus 2. Les 30 autres camarades qui étaient avec moi en BTS ont vraiment eu beaucoup de mal, et même d'autres. Certains n'ont pas réussi à trouver du travail, d'autres se sont reconvertis en changeant de formation, en faisant une formation complètement différente. Il y en a qui sont en train de faire des formations de marketing dans les produits de l'enfant, d'autres dans des formations... pour les personnes handicapées, enfin bon, c'est vraiment varié, parce qu'ils n'ont pas trouvé de travail. Et pour avoir vu ce que ça donnait un petit peu quand j'ai voulu changer de travail en voulant partir de la mairie, j'ai fait à peu près 40, j'ai postulé dans 40 établissements privés, et quasiment à chaque fois, je vais dire sur les trois quarts des lettres que j'ai pu envoyer, j'ai eu des réponses favorables. Et j'arrivais donc au dernier tour, on va dire. Et là, ce qu'on me reprochait, c'était mon manque de diplôme. Pas mon manque d'expérience, mais le peu de diplôme que j'avais. J'avais simplement un BTS. Et avec un BTS, c'était pas facile de trouver.
Merci.
C'est un petit peu le paradoxe avec ce que disait Julien, je crois, c'est ça ? Parce que souvent les métiers de l'informatique, c'est quand même quand on est passionné, donc c'est souvent une grosse partie d'autodidacte. Donc comment justifier de ce qu'on a appris chez soi et ce qu'on a appris tout seul ? Parce que, enfin, moi je sais pas, j'ai tout appris moi-même et tout, j'ai passé des heures, des nuits, comme n'importe quel informaticien qui se, se le dire.
C'est pas obligatoire non plus. Hein, mais...
Oui, non, mais bon, souvent c'est comme ça parce qu'on se met face à un problème et puis on a envie de le résoudre. Donc s'il faut y passer la nuit, on y passe souvent la nuit. Et puis ça passe avec Internet, avec les gens qu'on y rencontre, les forums et tout. Et donc je m'interroge comment justifier de ça auprès des professionnels quand on se pointe devant une entreprise et qu'on dit bah voilà, j'ai juste un bac plus 2, mais je fais de l'informatique depuis que je suis. Enfin, je sais pas comment.
Oui, au moment de l'entretien, parce que tout va jouer sur l'entretien. Ouais, moi, je peux parler des différents recrutements qu'on a pu faire au niveau de l'Université de Poitiers. Déjà, à l'heure actuelle, donc c'est vrai à l'Université de Poitiers, mais c'est vrai, ça va aussi être vrai dans le privé, ça va être vrai partout. On ne recrute plus en dessous de Bac plus 3. Bac plus 3, c'est le niveau minimum de demandé, requis, pour le poste à la fonction publique. Sachant que, pratiquement, derrière, la personne recrutée sur un poste de Bac plus 3, il a 90% du temps un niveau Bac plus 5. Il faut quoi ? À l'heure actuelle, c'est un fait au niveau informatique. On va recruter très très peu en dessous d'un Bac plus 5.
Donc est-ce que les vraies connaissances, on les acquiert pas, enfin l'essentiel des connaissances, on les acquiert pas tout seul et que les diplômes, c'est juste la validation des acquis ?
C'est une carte d'identité, un diplôme, en fait. Voilà.
Ouais.
Pour rebondir par rapport à ça, nous on a aussi recruté des gens qui étaient en dessous du niveau requis, parce que sur l'entretien, la personne, elle nous a montré qu'elle était capable, quoi, que son niveau de diplôme n'était pas du tout en adéquation avec ses connaissances et ses compétences. Et qu'à un moment donné, on recrute sur les compétences, sauf qu'à sur beaucoup d'entretiens d'embauche, sur beaucoup de procédures d'embauche, et c'est le cas en tout cas dans la fonction publique, si vous n'avez pas le diplôme minimum, votre dossier, s'il y a une poubelle, il va directement à la poubelle. Ça, je ne me prononcerai pas sur l'NPE. Mais... Oui, après, il faut passer hors à NPE et puis candidater quand même. Mais... C'est possible.
Quand on a réussi à convaincre, si le recruteur a l'impression que ça peut aller, ben il va vous donner votre chance malgré tout. Oui, oui. Après, il faut être convaincant. Ouais. Faut avoir la hargne, il faut en vouloir. Faut se vendre. Tout à fait.
Mais après, au niveau des recrutements, aujourd'hui, au niveau informatique, on sait que c'est des métiers qui évoluent énormément. On sait que la personne qu'on va recruter, elle ne va pas être opérationnelle tout de suite, parce que ce qu'on va lui demander va être très précis aussi, généralement. Et que donc, forcément, quasiment la première étape au moment de l'embauche, c'est tu vas partir en formation. C'est quasiment obligatoire. Parce que en tout cas, dans le domaine public, parce que vu les salaires qu'on peut offrir, on ne va pas avoir quelqu'un qui est directement compétent et performant sur le travail qu'on a à lui faire faire. Parce que les personnes qui sont compétentes sur nos besoins, ils sont partis ailleurs. Ou ils sont payés beaucoup plus que ce qu'on peut les payer. Quoi, Donc forcément, ça va passer au départ par une étape de formation. Mais ça, c'est... au jour d'aujourd'hui, c'est quasiment indispensable en informatique. Trouver... Quoi. Le problème, c'est que je ne suis pas vraiment le bon exemple par rapport à ça, parce que c'est... on va dire que l'université, donc... fonction publique n'est pas le bon exemple de recrutement à ce niveau-là. Parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens de recruter les gens au niveau. Quoi. On n'est pas du tout concurrentiel par rapport au privé au niveau du recrutement. C'est pas plus compliqué que ça. Quand nous, on va payer quelqu'un 1 500 € par mois, dans le privé, la personne, elle va gagner 4 500. Moi, aujourd'hui, dans la fonction publique, je gagne en net, je dois gagner 2 100 € net. Dans le privé, c'était même pire que ça. En sortie d'école d'ingénieur de physique, on me proposait quasiment déjà plus que ce que je gagne maintenant pour faire de l'informatique. Et après, c'est un choix de vie, un choix. Voilà. Mais clairement, la fonction publique pour ces métiers-là, d'ailleurs ils sont en train de réfléchir justement, est-ce qu'on n'est pas attractif, donc qu'est-ce qu'on peut faire? On n'est pas attractif et donc on va avoir des problèmes même de fonctionnement à terme. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour être attractif sur ces métiers-là? Et c'est les mêmes problèmes qu'on peut avoir sur les métiers de l'immobilier. Aujourd'hui, un maçon, il ne va pas venir dans la fonction publique. C'est pas vrai. Comme un informaticien, c'est exactement les mêmes problèmes. Il y a énormément de demandes dans l'immobilier et dans l'informatique. Quoi, il y a énormément de demandes. Il y a énormément de besoins. Il y a très très peu de gens à mettre en face. Donc forcément, les gens, ils sont... Quoi, ça se comprend. Hein. Après, c'est vraiment un choix d'aller dans la fonction publique. Hein, parce que...
Madame Chosler, en quelle année vous avez obtenu votre DESS?
En 2004.
2004. Et est-ce qu'on peut savoir à combien s'élevait votre salaire d'embauche à l'époque?
Moi, c'est un peu particulier, puisque à la base, donc, j'ai une double casquette, mais je suis embauchée pour du commercial. Donc j'ai une partie fixe. Et j'ai une partie en fonction des objectifs. Donc, je ne pense pas pouvoir répondre à la question, puisque ça évolue en fonction de...
Non, je parle de votre salaire d'embauche, pas maintenant.
Mon salaire d'embauche était constitué d'un salaire fixe et d'un salaire variable. Donc, j'ai pas de chiffre à donner par rapport à ça.
D'accord, très bien.
Je peux répondre par rapport à la formation, puisque je suis directeur de cette formation. Aujourd'hui, les salaires d'embauche sont autour de 33 000 euros bruts par an sur les gens qui sortent. Et ça a augmenté dans les deux dernières années. Bon, Justine est sortie dans le creux dont je vous parlais. Donc à l'époque, les salaires moyens de cette promotion-là tournaient autour de 28 000 euros. Et là, on est bien monté. C'est la tranche 33-35 sur Paris. Bon, après, il y a toujours une différence entre Paris et la province. Enfin bon, il y a pas mal de choses. Mais nous, c'est l'observation qu'on fait à la sortie de la formation.
Et là, vous parlez brut, bien sûr.
Brut.
Et vous avez des statistiques d'évolution au bout de 3 ans, 5 ans? Qu'est-ce qui devient?
Oui, ça monte assez vite dans le privé. Hein. Surtout que nous, on travaille beaucoup avec l'industrie pharmaceutique, qui n'est pas la plus pauvre. Donc, ça monte bien.
Question salaire, question concrète. Une autre question, allez-y.
Ce serait pour avoir des informations sur la formation. Parce que moi, je suis au lycée actuellement en terminale. Je souhaiterais donc faire de l'informatique l'an prochain. Et j'hésite entre faire directement une école d'ingénieur ou en fait passer d'abord par un DUT pour rejoindre ensuite justement une école d'ingénieur, savoir lesquels seraient en fait mieux ou plus adaptés.
Bonne question. C'est pas du tout la même chose. Le fait de passer par un IUT, c'est valable pour toutes les disciplines, quelles qu'elles soient. C'est rechercher d'abord une garantie. La plupart du temps, quand on va dans un IUT, c'est pour avoir une garantie de diplôme, pour dire si jamais on n'allait pas plus loin. Bon, comme on l'a dit ici, au niveau informatique, il vaut quand même mieux viser tout de suite plus haut, parce que l'IUT, le Bac plus 2, c'est un niveau où il y a moins d'embauches aujourd'hui et la plupart des gens continuent. Alors est-ce qu'il est intéressant de passer par un IUT ou pas au début? Moi, je ne sais pas répondre à ça. Étant à l'université, intervenant dans des masters, des licences, des masters, je dirais qu'il n'y a pas d'obligation du tout. C'est vraiment une question de sentiment personnel. Est-ce qu'on estime être capable de travailler de façon autonome, ou est-ce qu'on a le sentiment d'avoir besoin d'un encadrement très très fort? À ce moment-là, l'IUT est la meilleure solution si on n'est pas capable d'être autonome. Mais sinon, les formations IUT sont avant tout prévues pour former des techniciens, pas pour aller jusqu'à un niveau ingénieur. Alors après, vous avez apparemment fait un choix entre IUT et école d'ingénieur. Il n'y a pas beaucoup d'écoles d'ingénieurs en informatique, spécialisées en informatique. Il y en a même très très peu. La plupart des formations vraiment en informatique se font à l'université, dans les masters. Il y en a partout en France, hein, il y en a dans toutes les universités. Et donc, faut bien choisir son école d'ingénieur si vous voulez en faire une. Et ce n'est pas forcément la meilleure solution. En informatique, il y a beaucoup plus d'ingénieurs qui n'ont pas le titre, donc qui sont embauchés comme ingénieurs avec le salaire qui va avec, mais qui en fait ont une formation de type DESS pour ceux qui sont sortis dans les années précédentes et master maintenant. Donc faut savoir que c'est pas du tout, il n'y a pas du tout la même situation que dans certaines disciplines, en aéronautique par exemple, où là le titre d'ingénieur c'est complètement autre chose.
Mais moi je peux aussi te répondre sur la partie école d'ingénieur, parce que j'en ai fait une. C'était une école d'ingénieur en physique, donc, sachant qu'au final on nous proposait du travail en informatique. Donc tu vois, tu peux partir dans n'importe quel domaine, quoi. C'était le cas il y a quand même, ça fait quand même quasiment 10 ans, donc c'est plus vraiment la réalité aujourd'hui. Mais l'école d'ingénieur, quoi, moi tel que je l'ai ressenti et tel que je l'ai vécu, j'étais très content de l'avoir à la fin, sauf que moi personnellement ça m'a rien apporté. Par contre, tous les gens qui étaient avec moi, qu'est-ce que ça leur a réellement apporté? C'est une étiquette. Et une étiquette qui se vend. Voilà. Qui se vend. Quoi, où les gens ils vont acheter ton étiquette. Et voilà. Une école d'ingénieur, c'est aussi une renommée. C'est aussi. Après, ça dépend de quelle école d'ingénieur. Il ne faut pas non plus faire une école d'ingénieur pour faire une école d'ingénieur. Parce qu'il y a des écoles d'ingénieur, l'étiquette ne vaut pas grand-chose. Quoi. Mais des belles écoles d'ingénieurs, l'étiquette, elle vaut cher. Mais c'est aussi du travail, quoi. Ces écoles-là, elles n'arrivent pas comme ça, quoi.
Oui, justement, alors, au niveau des écoles, comment savoir lesquelles sont bien, choisir
Moi, je te dirais déjà que la question, c'est est-ce que tu sais ce que tu veux faire derrière? C'est ça, vraiment, la grande question. Parce que tu as des écoles qui sont généralistes, qui vont te former à tout et n'importe quoi. Et donc là, clairement, au final, tu vas sortir avec ton tampon, quoi. Parce que tu vas être formé à rien du tout, en fait. Si, tu vas te former à une chose, à pouvoir te former tout seul. Rapidement. Et après, tu as des écoles plus spécialisées, que ce soit en chimie, en physique, en mécanique, en aérodynamique, où là, tu vas sortir avec, en plus, une spécialisation. Ça va te permettre de trouver du travail dans ces domaines-là, mais en plus aussi, parce que tu as quand même toujours une étiquette... école d'ingénieur, diplôme d'ingénieur, aller ailleurs aussi. Mais la première question, c'est qu'est-ce que je veux faire derrière? Si tu sais quelles sont tes envies, vers quel secteur d'activité, vers quel domaine, vers quel métier tu veux aller, je dirais que les choix, ils vont quasiment s'ouvrir, quoi. Ça va être lumineux derrière, quasiment, au niveau de tes choix. Parce que pour aller vers où tu veux aller, c'est ça qui va être le plus adapté.
Moi, justement, ce serait pour aller vers du développement et de la programmation logicielle.
Moi, alors en termes de développement, je pense que la meilleure école à ce niveau-là, c'est l'université. Clairement. Parce qu'en école d'ingénieur, tu vas jamais en faire. Moi, ce que je te disais en école de physique, 12 heures, quoi. Donc, c'est pas ça. Moi, je connais pas les nouvelles écoles en informatique parce qu'elles n'existaient pas à l'époque où je suis passé.
Les meilleures écoles qui ont le plus d'expérience ne sont pas des écoles uniquement d'informatique. Ce sont des écoles à Grenoble, par exemple, avec de l'électronique et de l'informatique. Donc, il n'y a pratiquement pas d'école qui ne fait que de l'informatique en école d'ingénieur. Ça va toujours être associé avec autre chose. Et on va se spécialiser en informatique dans les 4e ou 5e années, quoi, à la sortie de l'école. Donc c'est sûr que si on veut faire que de l'informatique, vraiment de l'informatique à haute dose, là c'est peut-être la voie IUT plus derrière soit une école spécialisée si on en trouve, soit la fac, parce qu'à partir de la licence master, enfin L3 master, là on peut faire de l'informatique et quasiment que de ça. Donc si vraiment on est très volontaire dans cet aspect informatique, il n'y a pas énormément de solutions pour ne faire que de ça. Maintenant, est-ce qu'il faut faire que de ça? On a bien vu tout à l'heure que beaucoup de métiers nécessité de s'ouvrir sur les utilisateurs, les clients. Et donc, ce n'est pas forcément une très bonne chose de ne connaître que la technique et de ne faire que de l'informatique. Ça restreint les possibilités d'évolution. Il vaut mieux être un petit peu plus polyvalent, ce qui permet de s'ouvrir et d'orienter sa carrière. Parce que faire du développement, quand on est jeune, on aime ça, on y passe des nuits, je l'ai fait, hein, je l'ai fait comme tout le monde, presque. Et puis, au bout de quelques années, on commence à se dire, bon, c'est bien, j'ai fait un peu le tour de la programmation, maintenant j'aimerais bien voir un petit peu autre chose. Donc, si on a pensé qu'à ça, fait que ça pendant toute sa formation, la reconversion est un petit peu difficile, enfin, donc, faut réfléchir aussi à ça.
Ben après, pour un exemple concret, là, pour certains de mes collègues qui travaillent en développement donc dans ma société, eux, ils ont fait un DESS, donc ils sont passés tous par la fac, et ils ont fait le DESS Génie Logiciel de Bordeaux. Donc, ils se sont spécialisés pour la création de logiciels, en fait, à Bordeaux. C'est un exemple concret.
Juste pour un peu confirmer ce que dit Patrick, je pense que ne faire que du développement, à un moment donné, là c'est vraiment quoi ? Pour moi, le développement, c'est vraiment le. On rentre dans le stéréotype de l'informaticien. Derrière son clavier, avec la pizza et le café, quoi. Et à un moment donné, pour moi, l'informatique, c'est autre chose. C'est ne pas faire que du code. C'est pourquoi est-ce qu'on fait quoi ? Pourquoi est-ce qu'on développe déjà ? On développe pourquoi ? Pour une personne, pour quoi ? Pour fournir un produit, pour fournir un service, pour donc c'est et ça va autre chose, ça va vraiment au-delà de ça, parce qu'il faut concevoir, il faut d'abord dialoguer avec les utilisateurs du produit derrière pour savoir ce qu'ils veulent. Donc c'est l'ouverture qui va amener aussi l'intérêt dans le travail, je pense. Et ça, c'est purement personnel.
Moi, je suis un petit peu perdu dans les formations. Je reprends ce que tu disais, jeune homme. À l'instant, alors moi c'est pas par rapport aux écoles d'ingénieurs, mais j'étais déjà en poste avec un métier, avec tout ce qui va avec et tout. Et quand on vous parle de reconversion, etc., on vous présente des écoles, notamment des écoles privées, qui vous donnent des diplômes d'équivalent justement, DUT, etc. Qu'est-ce que valent ces écoles par rapport au monde du travail quand on se présente avec ça?
C'est extrêmement variable. Tout dépend déjà du diplôme qui est donné. Est-ce que c'est un diplôme national qui est reconnu par l'État ou pas? Si c'est un diplôme national, à ce moment-là, théoriquement, ça vaut la même chose que ce qui est fourni à côté, enfin, dans les autres écoles. Après, c'est extrêmement variable. Si le diplôme n'est pas un diplôme reconnu, un DUT par exemple, il y a un programme à respecter, c'est obligatoire. Donc si on sort de ce programme ou si on n'applique pas ce programme, on peut pas valider ce type de diplôme. Le BTS, c'est un examen qui doit être passé. Donc là aussi, il y a une garantie qui est apportée par le diplôme en lui-même.
Ce qui me gêne, c'est la différence entre équivalence DUT et DUT. Bah, quoi.
Et bah, équivalence DUT, ça n'est pas un DUT, c'est très clair. Et donc là, qu'est-ce que ça vaut? Aucune idée. C'est la réputation de l'école. Et ça, pour savoir, il faut interroger des recruteurs, savoir ce qu'ils en pensent. D'accord. Moi, je ne peux absolument rien dire là-dessus. Ce qui est clair, c'est que si c'est équivalence DUT, ça n'est pas un DUT. C'est clair.
Et j'ai une dernière question, après j'arrête de vous embêter. Est-ce que vous préconisez plutôt des formations, enfin je crois que vous avez déjà plus ou moins répondu à la question, mais des formations plutôt généralistes où on aborde plusieurs domaines dans l'informatique, création de sites web, réseau, etc. Ou plus se spécialiser dans un domaine particulier, là je reprends Julien. Enfin je ne pense pas qu'on fasse par passion quand on a 15 ans, formation réseau. Parce que c'est sa vocation, je pense que c'est parce qu'il y a des débouchés professionnels, mais je ne crois pas que ça soit une passion en soi de travailler dans les réseaux. Donc, est-ce qu'il faut mieux se spécialiser ou est-ce qu'il faut mieux avoir une formation plus globale? Voilà,
Je ne suis pas tout à fait sûr que ce ne soit pas une vocation. Je veux
après,
dire,
ouais,
un,
voilà.
Un jeune qui n'arrête pas de démonter des machines pour les remonter, d'essayer de faire des réseaux à plusieurs pour jouer, je pense que c'est un bon candidat pour faire effectivement, au moins dans le début de sa carrière, des choses au niveau du réseau. Enfin, je dirais simplement que tout dépend à quel niveau on veut aller. Si on veut s'arrêter à un niveau licence professionnelle, par exemple, ben, la licence professionnelle, ça va forcément être quelque chose de pointu, quelque chose de spécialisé, parce que c'est la vocation de ce type de formation. Et ça, c'est bien pour un début de carrière, si on veut commencer à travailler tôt, acquérir un peu d'expérience, et au bout de quelques années, au bout de 5 ans, on peut faire de la validation de l'expérience, et ensuite passer en formation continue un master. Donc on peut très bien avoir un trajet qui passe par quelque chose de spécialisé au début. On acquiert de l'expérience et on va ensuite valoriser cette expérience pour passer à un niveau supérieur. Si on pense tout de suite aller à un niveau d'ingénieur, à un niveau de Bac plus 5, il ne faut pas trop se spécialiser au départ, ça sert pas à grand-chose. Il vaut mieux à ce moment-là rester plus général pour avoir plus de cordes à son arc et être capable d'évoluer beaucoup plus.
J'estime le monsieur là qui parlait école d'ingénieur ou technicien. Non, mais se spécialiser dès le départ en informatique, que en informatique, pour moi, c'est louper quelque chose dans l'éducation. Parce que, par exemple, étudier la physique ou quoi, c'est très intéressant. Et après, on peut. C'est une formation d'esprit. Il faut former l'esprit, c'est tout. Après, l'informatique, c'est on y passe 3 mois puis on apprend la chose. Enfin, 3 mois ou 6 mois et on apprend. Mais, enfin, c'est mon avis. Hein.
D'autres. Je vais vers la droite. Je peux vous demander, vous venez de quelle formation? Vous êtes étudiant déjà en informatique ou en BTS? En licence. Carrément. Licence avec des Poitiers, d'accord. Vous savez ce que vous voulez faire après? Vous aviez des questions par rapport à la soirée, si vous êtes venu là déjà?
J'ai peut-être une question, c'est. Au niveau des universités en elles-mêmes, est-ce qu'elles ont toutes la même valeur, les licences, et est-ce que c'est les mêmes formations partout? Par exemple, à Poitiers, en première année, on a fait de la physique, de la chimie au début de l'année. Donc, par exemple, je me demande à quoi ça me servirait plus tard ceci.
Moi, je peux juste te répondre sur une partie. Pourquoi est-ce que tu as appris à compter à l'école primaire, par exemple? Est-ce que ça va te servir dans l'informatique? Oui. Avoir vu des mécanismes. Alors, en informatique, c'est assez drôle parce qu'on a, en particulier en programmation, tu peux avoir toute une partie algorithmique qui va se baser sur des phénomènes, que ce soit physique, biologique ou n'importe quoi. Tout ce qui est algorithme génétique, ça porte bien son nom. Ça sort pas du PC au départ. La logique, elle vient de quelque part. Et donc, c'est tout ça aussi qui te permet derrière de comprendre et au moins d'assimiler un certain nombre de choses. Donc c'est pas inutile au départ quand même.
Puis il faut pas oublier une chose par rapport aux matières. J'en parlais justement hier encore avec ma chef. Ce qui a été important dans le recrutement par exemple de mon poste, c'était aussi la façon de se présenter, la façon d'écrire, les fautes d'orthographe. Donc, au niveau des matières, par exemple, moi, je me rappelle, en BTS, il y en avait beaucoup qui disaient, mais les dissertations, ça sert à quoi? Et puis, au final, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour les contacts qu'on peut avoir extérieurs, les formations, le relationnel, le contact dans le service. Et puis, vraiment, c'est vrai que il y a des fois, moi, je travaille avec des informaticiens dans des établissements scolaires. Quand je reçois certains mails où... il n'y a pas une phrase où il n'y a pas 5 ou 6 fautes d'orthographe dedans. Et puis alors des fautes, c'est du langage SMS même des fois. Donc c'est des gens qui ont un très haut niveau, même des fois un niveau d'ingénieur justement. Donc c'est vraiment des matières qui ne sont pas occultées, qui sont très, très importantes, que ce soit pour la culture générale ou après pour le parcours professionnel.
Je vais quand même répondre directement à la question par rapport aux universités et aux autres licences, voire masters. Si vous avez suivi un petit peu
les annonces qui ont été faites par la ministre de l'enseignement supérieur, Valérie Pécresse, on va vers une, dans les universités, vers des licences, des premières années de licence plus générales qu'elles ne sont encore. Alors nous à Poitiers, on ne veut pas faire plus parce que effectivement, c'est déjà bien assez comme ça. Mais la tendance voulue par le ministère est vraiment là. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir une grande, une dichotomie complète entre les IUT, les BTS qui sont très spécialisés et les premières années de, d'université qui vont être très généralistes. C'est une tendance à laquelle on ne peut rien. Hein, même on s'est battu en tant qu'informaticien à Poitiers pour mettre plus d'informatique dans, les, dans, dans le premier cycle de licence, dans les trois premières années de licence. Et on s'est heurté à un mur qui vient du ministère. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais cela étant, et donc c'est partout, hein, dans toutes les universités, mais cela étant, je pense qu'il ne serait pas bon de faire 5 ans d'informatique pour arriver au master et ne faire que de l'informatique. Parce que là, on se retrouve à être totalement autiste, on va dire, par rapport à toute l'activité. Il ne faut pas oublier que l'informatique, c'est rien en soi. L'informatique, elle est là pour servir, pour apporter des stockages de données, pour apporter du service de transmission, de communication. Elle n'est pas là en elle-même, c'est à part les sociétés éditrices de logiciels, sinon toutes les autres, elles l'utilisent. Et même la plupart du temps, ça n'est pas directement leur outil de production. Donc il ne faut pas oublier cette dimension-là qui oblige, quand on travaille dans le secteur, à s'ouvrir aux autres. Je crois que vous avez eu un certain nombre de démonstrations ici, et je pense que c'est le lot commun du travail informatique de s'ouvrir aux utilisateurs, de s'ouvrir à ceux qui vont réellement utiliser ces produits. Si vous n'avez aucune connaissance de discipline autour, ben, ça ne peut pas marcher, quoi. Les formations d'informatique de gestion, c'est moitié de la gestion, moitié de l'informatique. Donc pourquoi est-ce qu'en informatique scientifique, entre guillemets, ne ferait-on que de l'informatique? Alors je sais bien que quand on est jeune, qu'on adore l'informatique, on a envie de faire que de ça, mais c'est pas, je ne pense pas que ce soit la bonne idée.
Je ne sais pas par rapport au monsieur qui est donc au niveau bac, si vous avez des questions à poser, pas forcément par le micro, mais après sur le contenu des licences à l'Université de Poitiers en informatique, n'hésitez pas entre vous à échanger aussi, hein, c'est des objectifs de ces soirées. Hein, voilà. Pas de questions derrière. Non. Des éléments. D'accord, il nous reste encore quelques instants si vous voulez des compléments.
Les perspectives en matière d'emploi semblent prometteuses, énormes, c'est marqué sur le diaporama. Par ailleurs, dans un monde mondialisé, pour faire une litote, on parle tous des myriades d'informaticiens indiens efficaces, aussi bons, sinon meilleurs que nous, enfin, doit-on comparer, hein, puisque d'ailleurs... bon nombre d'informaticiens célèbres sont issus de leurs universités. Comment l'équilibre va-t-il se faire entre notre petit pays et puis ces grandes nations en matière de répartition de l'emploi, de répartition des rôles dans le domaine informatique, puisque c'est le sujet de ce soir?
Alors ça je peux vous répondre parce que c'est effectivement une question que j'ai posée à beaucoup de professionnels industriels du secteur, et en particulier des SS2I. C'est très clair. Aujourd'hui, on externalise effectivement, comme on le fait un petit peu partout dans tous les secteurs, on externalise en informatique. Qu'est-ce qu'on externalise ? Vous parliez tout à l'heure du cycle de développement d'un produit logiciel. Eh bien, ce que les SS2I externalisent, c'est la partie développement pur. C'est-à-dire la partie la plus technique du développement, celle dont on a parlé, qu'on se lassait assez vite, souvent, et ce qui ne peut pas être externalisé parce que ça demande du contact direct avec le client. Et là, j'en reviens à ce que disait Justine tout à l'heure sur l'importance pendant les formations de recueillir les besoins pour faire évoluer les logiciels. Tout ça ne peut pas s'externaliser. Ce qui ne peut pas s'externaliser, c'est la phase de validation en situation avec les utilisateurs. Et là, l'informaticien indien, il n'a aucune plus-value. D'abord, il faudrait qu'il vienne sur place, ce qui n'est pas le cas pour les Indiens, ils restent chez eux. Et ce n'est pas à distance qu'on peut faire ce genre de choses. En plus, il vaut mieux le faire avec des gens qui ont la culture, la même culture, et donc rester dans une relation personne à personne. Et aujourd'hui, c'est ce type de poste qui est en grande augmentation. C'est pour ça qu'on a besoin d'ingénieurs, c'est pour ça qu'on a besoin d'ingénieurs très polyvalents qui connaissent autre chose que l'informatique, qui la connaissent bien, l'informatique. Il ne faut surtout pas que vous entendiez ça en disant il ne faut pas faire beaucoup d'informatique ou il ne faut pas penser à faire de l'informatique. Si, ces ingénieurs sont des gens qui connaissent l'outil, qui savent le manipuler, qui savent développer, mais qui savent faire beaucoup d'autres choses. Tout à l'heure, on a beaucoup entendu parler de l'auto-formation. Oui, on peut s'auto-former pour faire du développement, pour faire de l'analyse. Il y a des méthodes d'analyse qui sont complexes, qui ne sont pas évidentes à maîtriser en auto-apprentissage. Et c'est là-dessus qu'on travaille essentiellement dans les cycles master, les cycles des dernières années d'école d'ingénieur. On ne fait plus de développement. Hein. À partir du M1, on n'apprend plus les langages. On les apprend tout seul, les langages, c'est sûr, mais on apprend des concepts de plus haut niveau quand on fait vraiment de l'informatique et on a vraiment beaucoup de choses autres à apprendre. C'est quelque chose qui est qu'on n'imagine pas forcément au début quand on travaille, quand on fait un peu d'auto-formation en programmation. Donc je pense que sur ce côté, sur ce volet-là, il n'y a pas à s'inquiéter. À partir du moment où on est dans une formation qui tient son rang, hein, on va sans problème continuer à trouver de l'emploi parce que cet emploi ne peut pas être externalisé.
Merci. D'autres questions, je ne sais pas, par rapport au contenu des enseignements qui sont faits, parce que c'est vrai que formation informatique, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond derrière.
Je dirais que tout à l'heure, on a parlé de la licence, on a dit que c'était à peu près pareil partout. D'ailleurs, c'est vraiment vers ça que le ministère souhaite aller. Par contre, au niveau des masters, c'est complètement différent. Au niveau des masters, vous avez des masters qui se spécialisent sur des thèmes particuliers. En Poitiers, par exemple, il y a une grosse spécialisation en images. Avec un laboratoire important, beaucoup d'enseignants qui travaillent dans ce domaine-là. Mais ça sort peut-être un petit peu du cadre de ce genre de réunion, mais c'est vrai que vous allez pouvoir trouver, si vous voulez vous spécialiser dans les bases de données, vous spécialiser dans le réseau, vous spécialiser dans les technologies mobiles ou ce genre de choses, eh bien vous allez trouver après la bonne formation dans une université ou une autre. Je vous dis à Poitiers, la licence pro qui va s'ouvrir est sur ces technologies mobiles et web avancées. Le master est orienté beaucoup sur la partie image, génie logiciel, donc ingénierie du développement logiciel. C'est pas la programmation, c'est toute la couche qui est située au-dessus, programmation étant incluse, mais qu'une partie. C'est la partie temps réel, contrôle-commande, avec l'équipe qui travaille à l'ANSMA. L'ANSMA étant une école d'aéronautique, il y a des gens qui travaillent dans cette notion de contrôle-commande, comment piloter un drone, ce genre de choses. Là, il y a aussi de l'informatique qui est très spécialisée. Donc ça fait partie des ouvertures qu'il y a à Poitiers. Et puis après, vous allez trouver de l'informatique. À La Rochelle, il y a une informatique pas mal orientée intelligence artificielle, que vous ne trouvez pas à Poitiers, par exemple. Mais ça, chaque université a ses propres thèmes de prédilection. Qui se retrouvent dans, bien sûr, de nombreuses universités.
Non. Pas de dernière question ? Non, pas de... Allez, une petite dernière question.
Merci. Par rapport à ce que vous disiez à l'instant, moi j'entends parler, m'étant spécialisé dans un domaine d'activité dans l'informatique, même si je m'intéresse à d'autres choses, j'entends parler PAO, MAO, DAO. Est-ce que pour ces domaines-là, vaut mieux s'adresser à des écoles, encore une fois privées, ou est-ce que là aussi on peut prendre un cursus universitaire et rentrer dans ces domaines-là ?
Tout ce qui est PAO, donc publication assistée par ordinateur, ça touche aux arts graphiques, à ce genre de choses. Donc c'est pas forcément, ça tout dépend à quel niveau on veut le faire. Est-ce qu'on veut le faire au niveau du design, au niveau de la création graphique, auquel cas c'est il faut maîtriser les outils informatiques, mais il faut aussi avoir une formation qui en art graphique et ce genre de choses qui sera tout à fait pertinente pour cet aspect-là. On rentre dans la double compétence dont on a beaucoup parlé, une compétence informatique pour toutes les techniques et puis autre qui là en l'occurrence est graphique, mais au sens vraiment art graphique, quoi. Par contre, si on veut faire des logiciels, construire des logiciels dans ce domaine-là, là, c'est purement du génie logiciel avec une composante graphique. Là, on n'est pas tout à fait dans la même classe de formation. Alors après, les arts graphiques, y a des écoles spécifiques dans ce domaine-là. Au CNAM, ils en font aussi. Je ne peux pas vraiment, là encore, répondre dans l'absolu. Le classement des écoles, il est très subjectif. Et donc, il y a des hebdomadaires qui font ça tous les ans, le classement des écoles. Pour répondre à la question tout à l'heure sur comment savoir si une école d'ingénieur est bonne, ces classements-là existent. On en prend ce qu'on veut, mais ils existent. Vous savez, dans les écoles d'ingénieurs, il y a les très grandes écoles. Celles-là, elles sont absolument incontournables. On a rien à dire. Je veux dire, quand X, Polytechnique, par exemple, c'est clairement une très grande école, une très bonne école. En dessous, il y a un certain nombre d'écoles qui sont largement reconnues. Et puis après, chacune a sa propre sphère d'influence. Et donc, il faut vraiment étudier ça en détail pour savoir à quel niveau elle est. Ce qui est très important, c'est comment se placent les gens à la sortie. C'est ça qui compte le plus. C'est ça qu'il faut obtenir comme information. Ceux qui placent bien la donnent. Ceux qui placent moins bien ont plus de difficultés à la donner et font un peu de rétention d'informations là-dessus. Voilà tout ce qu'on peut dire.
Merci. Merci. Voilà, mais je pense que s'il n'y a plus de questions dans le public, je remercie donc nos intervenants et puis également le public pour les échanges qui étaient très intéressants. Bonne fin de soirée à tous. Au revoir.